Radio Okapi. Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bosuma.
À la une, cette attaque contre une embarcation sur le fleuve Congo à Kabale-Kole, à la frontière avec le Congo-Brazzaville, au niveau de Kwamout au Maïndombe. Bilan, plusieurs morts et une centaine de disparus. Information livrée par le député provincial Moïse Makani et l'administrateur de Kwamout. Programme de développement de 145 territoires. Au Sud Kivu, les premiers ouvrages seront disponibles d'ici fin 2023. Le PNUD a confirmé tous les grands axes routiers et ouvrages retenus pour les 8 territoires de cette province. Cette agence onusienne évoque tout de même des contraintes dans l'exécution de ces ouvrages au Sud Kivu. Et puis, le monde culturel de la RDC a perdu l'un de ses guitaristes de renom. Lokassa Yambongo est décédé le jeudi 16 mars aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 77 ans. Dans ce journal, son portrait avec Kaki Akiewa, l'un des experts culturels de Radio Okapi. Madame, messieurs, bonjour. Nous venons de l'apprendre. Plusieurs morts et une centaine de disparus, tel est le bilan définitif de l'attaque contre une embarcation sur le fleuve Congo mardi dernier à Kabale-Kole, un village de la République du Congo situé à la hauteur du territoire de Kwamout au Maïndombe, village en proie à l'activisme des bandits armés depuis près de 8 mois. Cette information est livrée par le député provincial Moïse Makani et l'administrateur de Kwamout. Ce dernier rapporte que 22 rescapés sont pour le moment au chef du territoire, le récit de Irène Mboma.
Selon le député provincial Moïse Makani, la baleinière qui provenait de Kinshasa pour la province de l'Équateur avait à son bord plus de 220 passagers. C'est au niveau du village Kabale-Kole, situé le long du fleuve Congo, à la rive du Congo-Brazzaville, que cette embarcation a été attaquée par des assaillants armés. L'élite de Kwamout rapporte qu'après l'incident, il y a eu 9 morts et 190 disparus.
Après l'attaque d'embarcation, nous avons un bilan de 190 disparus. L'équipe de la RC est descendue sur le terrain, a retrouvé par terre 8 corps des Congolais RDC et un sujet, le capitaine de leur village Kabale-Kole.
Cette information est confirmée par l'administrateur du territoire de Kwamout, Pius Makina.
Le bilan est de 9 passagers à bord, morts et puis découpés en morceaux. Du côté RC, il n'y a que le chef du village qui s'est retrouvé à Ouvendo vivant. Et le reste est porté disparu. Donc, le nombre de morts noyés, c'est plus de 100.
L'autorité territoriale de Kwamout précise que l'embarcation a été emportée par les assaillants au village Ibali. Pour le moment, les 22 rescapés sont accueillis à la cité de Kwamout, a-t-elle ajouté. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Parlons des pourparlers de Nairobi. C'est à Naivasha, à une centaine de kilomètres de Nairobi, que des délégués de la facilitation kenyane, du secrétariat technique de l'EAC, de la MONUSCO et de la présidence de la République de la RDC participent à un atelier préparatoire de Nairobi 4, la quatrième phase des consultations de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, conduite par le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda et Nairobi, le professeur Serge Tshibangu. La délégation présidentielle entend apporter sa contribution intellectuelle dans la préparation de la quatrième phase des consultations prévues dans les prochaines semaines à Kinshasa, Goma, Bunia et Bukavu, suivant la recommandation prise à l'issue des travaux de Nairobi 3, indique la presse présidentielle congolaise. Plus de détails avec Piro et Lamenji.
Les travaux préparatoires de Naivasha portent sur les choix des participants à ces consultations, l'élaboration du programme détaillé pour chaque étape retenue, les questions logistiques et budgétaires, ainsi que les matières qui seront traitées à cette quatrième phase des consultations en terre congolaise. En 3 jours d'échange, les participants se sont organisés en 4 ateliers correspondant aux différents thèmes de travail avant de produire un rapport qui sera présenté au facilitateur qui les soumettra à son tour au chef d'État de l'EAC. De l'avis de tous, la quatrième phase de ces processus soutenus par la communauté internationale doit produire plus de résultats que des précédentes étapes. Nairobi 4 est la suite du processus politique entamé depuis avril 2022 à Nairobi. Au cours des 3 dernières phases, des consultations ont été organisées en RDC et à Nairobi avec une 50aine de groupes armés ayant souscrit au processus de désarmement et réintégration sociale à travers le PDDRCS, des représentants des la société civile et des communautés.
Nord Kivu, la vie socio-économique de la population de la partie sud du territoire de Beni est affectée par la situation précaire actuellement dans la chefferie de Bachou, victime de plusieurs attaques attribuées aux EDF cette semaine. La nouvelle société civile dans la région salue le récent déploiement de l'armée dans cette partie du territoire, mais appelle au renforcement des effectifs et de la logistique. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Dans la localité de Kabacha, par exemple, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti presque toute cette semaine, caractérisées par de multiples attaques. Les fameux marchés de vente des fruits à Kalunguta et Maboya sur la route Beni-Butembo n'ont pas fonctionné durant ces jours. Les écoles non plus n'ont pas ouvert leurs portes dans la plupart des groupements de la chefferie des Bachou et secteur de Wenzori affectés par ces attaques. Les activités champêtres sont paralysées. Craignant pour leur sécurité, le peu d'habitants qui n'ont pas abandonné les villages ont du mal à se rendre aux champs. Jeudi dernier, des hommes armés assimilés aux EDF ont sillonné les villages de Massaou Pitenga à l'est de Kabacha et Kalunguta dans le groupement Bouliki en secteur de Renzori. Ils ont apporté quelques personnes et ont torturé d'autres à Lutunda Pitenga, rapporte Meleki Mulala, président de la nouvelle société civile. Il demande à l'armée de renforcer ses troupes déployées dans la zone et leur garantir une bonne logistique. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Au sud Kivu voisin, la situation sécuritaire reste généralement calme sur l'ensemble du territoire de Fizi. Les opérations conjointes entre les FARDC et les forces burundaises permettent de stabiliser le deuxième plus grand territoire de la province. Révélation du nouvel administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, dit apprécier le dispositif sécuritaire qui s'impose dans la plaine de la Ruzizi, où il a traversé la nuit sans inquiétude. L'administrateur de Fizi est au micro de Emmanuel Elamenji.
La situation sécuritaire de mon territoire de Fizi est relativement calme, en dépit de certains cas sporadiques. Mais vous savez, avec les opérations conjointes avec l'armée burundaise ensemble avec nos FARDC, on a pu mener différentes opérations dans les moyens au plateau. Et je vous assure, parce que je suis un témoin oculaire, j'ai quitté Fizi il y a des jours pour Bukavu dans un atelier et je passais toute la plaine de la Ruzizi la nuit. Et j'ai trouvé les différents checkpoint érigé par nos militaires FARDC ensemble avec la police. Ça m'a fait beaucoup la joie et je vous assure que Fizi comme Uvira, la situation sécuritaire est relativement calme.
Même du côté de Minembwe, Minembwe c'est dans Fizi.
Oui, Minembwe c'est le bastion de tous les conflits à Fizi, mais la situation sécuritaire que nous avons dans les hauts plateaux de Minembwe semble être bonne par rapport au mois passé où on dénombrait chaque jour les morts, les tueries, les enlèvements, même certains déplacés internes qui étaient déjà dans les moyens plateaux, presque déjà de rentrer chez eux, et c'est parce qu'ils ont des nouvelles selon lesquelles chez eux la paix commence à revenir.
En Ituri, signalons l'installation hier à Bounia de la Ligue provinciale du sport des handicapés, Handisport. Parmi les membres de ce comité figurent des victimes des atrocités des groupes armés dans la province. Ces derniers saluent la création de cette structure dont le but est entre autres de promouvoir le sport pour personnes à mobilité réduite et de lutter contre la stigmatisation dont sont souvent victimes des personnes vivant avec handicap. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Lancé pour la première fois en Ituri, les handicapés amateurs de basketball sur fauteuil roulant du Parababington ainsi que du volleyball peuvent désormais s'y exercer. L'objectif est de permettre aux personnes à mobilité réduite de renforcer leurs muscles et de valoriser leur état d'handicap à travers le sport. Grâce Foura, l'une des athlètes, a perdu ses deux jambes. Elle explique ce que ce sport va lui apporter.
Comme je suis handicapé avec deux jambes en ce sport est important pour ma santé. Je me sens vraiment libre car je vais renforcer mes muscles. Si je joue correctement, je peux devenir une star et être comme les autres.
De son côté, le conseiller en inclusion sociale au sein du comité international de la Croix-Rouge qui leur a remis des matériels des jeux, l'installation de cette ligue en Ituri prouve la volonté du CICR d'accompagner les victimes des conflits armés. Eva Bunjeli.
On a amené 10 fauteuils multisportifs de basket parce que ce fauteuil-là ne fait pas seulement des baskets, c'est un fauteuil qui peut aider les personnes handicapées de faire par exemple le volleyball assis, ça va les aider à s'intégrer dans la société. Au-delà de leur handicap, il y a une vie.
Pour rappel, l'Ituri compte environ 1065 personnes vivant avec handicap. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, au Sud Kivu, les premiers ouvrages du programme de développement de 145 territoires seront disponibles d'ici la fin de l'année 2023. Le PNUD a confirmé tous les grands axes routiers et ouvrages retenus pour les 8 territoires du Sud Kivu. C'était au cours d'un atelier à l'intention du gouvernement provincial, les administrateurs des territoires et la société civile. Cette agence onusienne évoque tout de même certaines contraintes dans l'exécution de ces ouvrages au Sud Kivu. Emmanuel Elameji nous en parle.
La province du Sud Kivu entend bénéficier de 1667 km de routes à réhabiliter dans les 8 territoires, 45 écoles primaires, 43 centres de santé, 20 microcentrales solaires et bien d'autres bâtiments administratifs à construire. Le chef de projet au PNUD de Sud Kivu, Ile-de-France Cassio.
Ici, chez nous au Sud Kivu, on a confirmé ici que ces axes existent bel et bien. Il y a des routes de desserte agricole qu'on va réhabiliter à travers les 8 territoires. Les contraintes, en réalité, c'est d'abord l'accessibilité. Prenez par exemple le territoire de Chabunda, qui ne peut être atteint que par avion. Et c'est un territoire qui a la même enveloppe que les autres, ce qui fait qu'il y aura un impact sur le nombre d'infrastructures.
Ces programmes ambitieux du chef de l'État congolais impliquent le gouvernement provincial pour le suivi. Robert Biachanda Chabidoge, gouverneur intérimaire.
Nous, du gouvernement provincial, par exemple, le site de Kivu, qui a 8 territoires, ces 8 territoires vont être dotés de 80 millions. 10 millions par territoire, ce n'est pas rien. Nous devons nous assurer que cet argent va servir aux objectifs assignés. On va sensibiliser nos populations, la société civile, donc tout le monde est concerné.
Signalons que ce projet de développement de 145 territoires porte sur la régularisation du décalage entre les villes et les villages. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Province du Haut-Katanga, l'opération coup de poing se poursuit dans la ville de Lubumbashi. Les marchands pirates sont chassés par les éléments de la police pendant que les agents commis à l'assainissement évacuent les immondices qui jonchent les artères. Jean Gandou, au reportage.
C'est depuis 2 jours que cette opération se fait dans la capitale du cuivre. Elle intervient après une période de sensibilisation menée auprès des marchands pirates pour leur demander de quitter les emprises de l'État et rejoindre ainsi les différents marchés de la ville. Les récalcitrants ont vu leurs biens saisis et ramenés à la mairie de Lubumbashi. Parmi ces biens, il y a eu les vivres et les non-vivres. Le maire de Lubumbashi a pris tous ces biens et les a déposés à la prison centrale de la Kasapa. Les étalages placés le long des artères ont été détruits. Et ce vendredi matin, les agents de l'ordre sont visibles ça et là pendant que les vendeurs tentent de dissimuler leurs marchandises, espérant que les forces de l'ordre se déplacent pour qu'ils puissent les étaler. Au même moment, les véhicules destinés à l'évacuation des immondices sont à pied d'œuvre pour assainir la ville. Cette opération intervient après que les voix se soient levées pour dénoncer l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi. D'autres personnes voudraient que cette opération touche aussi les taximen moto qui, malgré l'interdiction de circuler au centre-ville, continuent à y opérer sans être inquiétés. Lubumbashi, Bashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Au Maniema, les femmes de Katakokombe, chef de la chefferie de Bangengele, territoire de Kailo, ont été sensibilisées sur l'importance d'avoir des connaissances sur les numériques. Cette sensibilisation a été faite par la promotrice de la fondation Didine Kopi, qui a montré à ses pairs le bien fondé de l'utilisation des numériques dans le monde actuel. Didine Kopi a par cette occasion exhorté les femmes à prendre en considération le processus électoral en cours en se faisant enrôler massivement. Didine Kopi dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Comme vous le savez, la réussite de la femme pour la parité doit être un combat permanent qui passe par l'éducation de la fille et de la maman. En ce 21e siècle, dominé par la nouvelle technologie de l'information et de la communication, l'éducation numérique égalitaire s'impose à tout le monde. Il est donc question pour la femme de ne pas croiser les bras car l'éducation numérique ne peut pas être l'apanage du seul sexe masculin. Mesdames et messieurs, le défi est énorme, mais 1000 km commencent par un pas, dit-on. Dans tous les domaines de la vie, le conseil c'est que l'éducation numérique est toujours incontournable. Pour terminer, je demande à toutes les femmes qui ne se sont pas encore fait enrôler d'aller sans plus tarder accomplir leur devoir citoyen auprès de la CENI, étant donné que c'est aussi leur droit.
Actualité internationale.
D'abord, cette alerte de l'UNICEF. 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont besoin de toute urgence d'aide humanitaire, soit deux fois plus qu'en 2020 face à l'intensification des conflits, a indiqué l'agence onusienne ce vendredi dans un rapport. Les conflits armés touchent de plus en plus d'enfants, lesquels sont victimes de l'intensification des affrontements militaires ou pris pour cible par des groupes armés non étatiques, observe la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Marie-Pierre Poirier, dans un communiqué. Le ministre gabonais des Transports, Brice Paya, a démissionné jeudi, soit une semaine après le naufrage d'un petit ferry qui a fait au moins 21 morts et 16 disparus, selon un bilan encore provisoire, a annoncé la présidence du Gabon.
L'invité.
Le monde culturel de la RDC a perdu l'un de ses guitaristes de renom, Denis Lokasa Kasia, mieux connu sous le nom de Lokasa Mbongo, est décédé jeudi 16 mars aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 77 ans. Mais qui était-il et quelle était sa spécialité dans la musique congolaise? Kaki Akiewa, notre expert, l'un de nos experts culturels à Radio Kapi, en parle avec Piero Elamenji.
Kaki Akiewa, bonjour.
Bonjour.
Le monde culturel de la République démocratique du Congo a perdu un guitariste, Lokasa Mbongo. Est-ce qu'on peut dire que c'est une perte?
Oui, Piero Elamenji, c'est une perte énorme dans la musique congolaise, d'autant plus que Lokasa avait une particularité à sa guitare. Il jouait d'abord la guitare mi-solo, qui ne court pas la rue, il faut le dire, mais cet artiste a réalisé beaucoup de choses pour que cette musique congolaise reste gravée dans la mémoire des plusieurs personnes, même des étrangers.
Et quand on regarde son parcours, est-ce qu'il a pu rester seulement dans un seul groupe ou il a mis sa guitare à la disposition de la musique congolaise d'une manière globale?
Lokasa Mbongo a eu à jouer avec l'homme au maquet du Franco dans l'Oké Jazz. Il a également joué chez Taboulay Rochero, qui était des deux grands rivaux de la musique congolaise moderne, il faut le dire. Et Lokasa est parti finalement en Côte d'Ivoire, là où il a assis la musique congolaise avec Silar Productions. Il a joué cette musique-là, accompagnée de Niboma Kanta, qui continue d'ailleurs à jouer cette musique. Après, il s'est installé à Paris. À Paris, c'est lui qui était le centre, pratiquement, pour recevoir toutes les personnes qui voulaient bien jouer la musique congolaise. C'est lui qui prenait les contacts. Il était arrangeur également. Il jouait la musique, la guitare mi-solo, comme je venais de dire tout à l'heure. Et il concurrençait aussi les chanteurs, d'autant plus que avec son jack, le jack qui mesure 2 mètres, le jack n'est rien d'autre que les câbles là qui servent pour mettre dans l'ampli pour jouer la guitare. Et lui, il mettait un jack de 6 mètres pour venir à la rangée des chanteurs.
Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de la RDC, Côte d'Ivoire, Paris, États-Unis, est-ce qu'on pouvait dire qu'il y avait un déficit pour le contenir ici et qu'il a souhaité aller là où il avait beaucoup de possibilités de s'exprimer avec son art?
Voilà, il y a beaucoup d'infrastructures de ces côtés-là, d'autant plus qu'ici, nous avions des studios, mais pas beaucoup. Tout le monde venait en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, pour apprendre certaines choses. Et lui, il avait un producteur, Silar Productions, et c'est lui qui réunissait pratiquement tout le monde, que ce soit les Gabonais, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Camerounais, qui souhaitaient jouer aussi la musique soukous. Ils ont dû carrément créer la musique soukous pour mettre tout le monde ensemble, même s'ils n'écoutaient pas la langue lingala ou une autre langue. Nous avons vu avec Pépé Calé dans Moïbi, dans Roger Mila, dans Pomon Paka Bougé, Lokasa était toujours là pour donner sa main pour la réussite de cette musique.
Est-ce qu'il est allé au-delà, parce qu'on voit les autres guitaristes comme le Tumba Simaro qui, au-delà de la guitare, il a écrit. Est-ce qu'il avait aussi été tenté par l'écriture des chansons ou a-t-il proposé des disques, comme on peut l'appeler dans notre jargon culturel?
Lokasa Mbongo écrivait des chansons, il était arrangeur également, il était au centre de la musique, il donnait des chansons. Malheureusement, ici, il n'était pas très très bien connu dans la jeune génération, il faut le dire, mais il a participé dans beaucoup d'albums, dans beaucoup de chansons qui ont fait fureur ici, des Diblo Dibala, des Emene Akin Kester, qui a demandé les services de Lokasa Mbongo, et il a joué pratiquement avec beaucoup d'artistes d'ici et d'ailleurs, lui qui était requin des studios. Ça veut dire, si vous êtes artiste et que vous composez votre musique, vous allez à Paris, vous allez contacter Lokasa Mbongo, qui va contacter pour vous d'autres artistes qui peuvent vous amener à produire un grand travail.
Y a-t-il une transition entre lui aujourd'hui avec de jeunes guitaristes en ce qui concerne la guitare mi-solo, comme vous l'avez dit?
Malheureusement, non. Pour les personnes que nous connaissons d'emblée, que nous voyons jouer la musique, mais les gens ne s'intéressent pas beaucoup trop à la guitare mi-solo, malheureusement. Je connais les personnes telles que Pichen Kambilo qui fait un effort pour faire entrer notre guitare au Conservatoire de la musique en France, notamment. Il a organisé des colloques, des formations pour qu'on lise aussi notre musique. Lokasa Yambongo n'a pas eu le temps de le faire, faut le dire, mais les jeunes n'ont pas emboîté les pas à la guitare de Lokasa Yambongo qui était les mi-solo. Qui est une guitare compliquée, il faut le dire, mais les jeunes s'intéressent. S'ils viennent de l'accompagnement, de la guitare rythmique, ils partent directement à la guitare solo, sans pour autant s'intéresser à la guitare.
Si aujourd'hui la jeune génération sait qu'ils ne s'intéressent pas à la musique, qu'ils apprennent qu'on a perdu une sommité en termes de guitare et qu'ils ont besoin d'écouter son son, quelles chansons peuvent-ils aller aujourd'hui chercher sur les plateformes de musique pour découvrir cette guitare de Lokasa Yambongo?
Nous n'irons pas loin. S'ils écoutent Orlus Mabele ou Kanda Bongoman, ils écouteront la guitare de Lokasa Yambongo, la guitare mi solo dont nous avons parlé ici. Mais pour faire simple, nous allons écouter Kantani Bumba et Pepe Kale dans Moibi. C'est la guitare qui s'exprime.
Voilà, c'était là l'entretien entre Kaki Akiwa, l'un des experts culturels de Radio Kapi, avec Pierrot et la Menji. Il parlait de ce qu'était Lokasa Yambongo. C'est l'un des guitaristes de renom de Radio, qu'est-ce que j'ai dit, de la RDC, et qui est décédé hier aux États-Unis à l'âge de 77 ans. Et par ici prend fin ce journal. Supervisé et coordonné par Alain Romouchinge et Pierrot Elamenji, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de votre attention.